Por supuesto, don, don. Habré de usted.
Don. Et ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que c'est la première fois de l'histoire, depuis 2000 ans, qu'un mouvement politique, national, qui fait que les Juifs reviennent pour fonder leur nation. À travers 2000 ans, il n'y a eu que des motivations individuelles de type mystique, qui s'appuyaient sur le Shulchan Aruch, mais de type mystique et individuel. Elles ont toutes échoué du point de vue du retour promis par la Torah. Le seul mouvement naturel des Juifs revenant chez eux en nation, c'est de notre temps. Okay. Donc, c'est secondement que j'ai dit par rapport à la loi des temps. Mais c'est surtout ce mouvement-là que je veux désigner. Les Juifs sont revenus et la promesse s'accomplit. Je veux dire, les Juifs sont revenus et dans l'ordre de la doctrine de Maïmonide. Il y a eu une promesse, en fin de compte, vous reviendrez, que vous vouliez ou pas. Okay. Et les Juifs sont revenus. Et il s'agit de savoir, à l'échelle individuelle, si on est concerné par ce mouvement du retour ou pas. C'est ça le fond du problème. Mais ça veut dire, au fond des choses, et c'est la doctrine sioniste, si on est concerné par l'identité juive. Parce que toutes les autres argumentations de l'identité juive, en amorce, en germe, je reprends le temps de patience que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas précipiter les ultimatums, okay, c'est déjà autre chose que le judaïsme. En tout cas, surtout en milieu religieux. Je ne sais pas si vous voyez à quel point vous avez des mises au point à faire dans votre quadrillage conceptuel. Okay. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Okay. Oui.
Je voudrais savoir ce qu'il est possible de faire individuellement, puisque par un certain côté, on a l'impression que les choses se font.
Écoutez, les choses se font pour Israël en tant qu'entité collective. Qui, à l'échelle individuelle, sera concerné? Alors là, toutes les initiatives sont possibles. Qu'il y aura un Israël qui revient, il y a un Israël qui revient. Mais finalement, il y a les Juifs. Et pour faire que les Juifs soient concernés par ce mouvement Israël qui revient, ça, c'est l'action individuelle.
Mais est-ce qu'il y a un risque, par exemple, quelqu'un qui soit vraiment juif, qui est né chez un juif, reste en Galilée?
Bien sûr, il y a toujours un risque qu'un prisonnier ne soit pas libéré. Il faut libérer les prisonniers. Les prisonniers ne se libèrent pas tout seuls.
Ah, d'accord.
Bon. Et c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est un état d'aliénation, ligoté, momifié. Et ils n'avaient pas cette bandelette pour se momifier. Ils ont acheté des tefilines en plus, pour ajouter. Ils sont ligotés dans leurs tefilines. Il n'y a pas de problème. Bon. Alors.
Vous avez parlé du génocide nazi qui aurait pu être évité. J'ai pensé à ce que vous aviez dit une quinzaine de jours sur Hanouka. En 1933-35, comment, enfin, là, puisque c'est les Raves qui enseignaient cette communauté.
Ne dis pas les Raves, les Rabbanim.
Les Rabbanim. Comment, enfin, sur quoi ils pouvaient savoir, on en avait parlé il y a une quinzaine de jours au sujet de Hanouka, ils pouvaient savoir que c'était là le moment, enfin, le.
On va le voir là.
Il est passé d'éléments
à cette
époque. Le fait qu'on revienne en tant que juif avec une
langue étrangère. Oui, et bien il faut se désintoxiquer.
C'est
disons un autre. Il t'a dit on est en convalescence. Bien sûr. Alors écoutez, je vais vous dire une chose. Non, mais je vais vous dire une chose, je l'ai souvent dite. C'est que lorsque vous serez hébreux, il ne faut pas claquer la porte de la France. Il faut leur dire merci. Ils nous ont donné une très belle culture. Okay, n'oubliez pas ça. Il faut d'abord s'en désintoxiquer du point de vue de l'identité, mais dire merci parce que c'est vraiment une très belle culture. L'erreur, c'est de se prendre pour un Français. C'est ça l'intoxication. Okay. Mais un Français ou un Anglais ou un Allemand, peu importe, chaque culture a sa valeur. Okay. À partir du moment où vous êtes devenu hébreu, eh bien, il faut dire merci à la France de la culture qu'elle vous a donnée. Et pas claquer la porte. Dire merci vraiment. En tant qu'Israélien, les Français sont très sensibles. Mais ils n'aiment pas qu'un étranger se prenne pour un Français. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Bon. Ken, tu veux demander quelque chose, non?
Non, c'est
Ça y est. Bon, on avance un peu dans la Gemara, après vous aurez une petite afsaka, une afsakette. Oui, on va la voir tout de suite. De la théorie. C'est des times. Marin. D'ailleurs, j'ai de violentes tentations, parce que cette nuit on finira pas, de vous refaire une autre nuit d'études avant que je m'en aille, pour finir. Après qu'on a vu ce verset énorme, Asher otseti etrem eretz Mitzrayim, latet lachem et eretz Knaan, lihiot lachem Elokim, vous avez suivi, qui vous est sorti du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Vous voyez l'ordre des propositions. La Gemara objecte. Vous suivez? Vechol she'eno dar ba'aretz en lo eloka. Tout à l'heure, tu m'as dit, il vaut mieux, et il vaut dans tous les cas, habiter le pays d'Israël plutôt que chutz la'aretz, parce que celui qui habite le pays d'Israël est comme s'il avait un Dieu. Et celui qui habite toute la rête, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Alors la Gemara objecte. Et tout celui qui n'habite pas le pays d'Israël n'a pas de Dieu. Et les Goïm, ils ont leur Dieu. Et c'est là que j'arrive à la question de Tamar. Oui. Est-ce que vous avez compris le raisonnement, Ken? Tada. Alors on continue encore une phrase. Et là, réponse. L'Omar Lecha. C'est pour te dire. Tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, c'est comme s'il était idolâtre. Et littéralement, ça veut dire au service des dieux étrangers, au service d'un service étranger. Oved Avoda Zara. Alors c'est là maintenant que j'explique. C'est-à-dire la relation entre le Dieu unique et l'humanité s'est modifiée lorsqu'il y a eu la grande dispersion de l'humanité. Je vais utiliser les éléments que nous avons déjà appris au cours d'Ora Pelaga.
Ken,
tout le monde, ça vous dit quelque chose tout cela? Vous vous rappelez? Après Babel, Ken. Et puis, en passant, David Ben Ezra m'a dit qu'à une des explications de Sidra, Il vous a expliqué ce qu'étaient les Sarim à propos de Ésaü, non?
Ah oui, oui.
Très bien. Bon. Alors, je vous l'expliquais. Il faudrait que je fasse un schéma au tableau, mais enfin, essayez de visualiser par vous-même. Si vous voulez, lors, tant que l'humanité est au niveau de l'universel, non différencié en Goïm, la relation entre Dieu et l'humanité est sans intermédiaire. Parce que l'homme a, si vous voulez, le visage de l'universel, c'est le Dieu unique qui se relie à l'universel humain. Mais lorsque chaque goy, chaque nation, s'est différenciée dans son visage particulier, apparaît une sorte de médiation de la volonté du Dieu unique pour ce visage particulier de l'homme. C'est clair? C'est ça les dieux des autres. C'est la volonté du Dieu unique, mais diminué, caricaturé, modifié, dans la diminution, la caricature, la modification de l'identité humaine dans chaque goy. Vous avez besoin d'un schéma ou c'est clair? Bon, vous allez voir que le schéma est très simple.
C'est un schéma israélien. Nous avons aujourd'hui ici l'humanité encore indifférenciée au niveau de l'universel. Alors, La relation entre le Dieu unique et l'homme, eh bien, c'est ce que j'appellerais, je crois que la notion la plus précise pour régler ce problème, pour étudier ce problème, la volonté de Dieu équivalent à son nom unique. Okay? Oui. À partir du moment où l'humanité éclate en goyim différenciés. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les hommes sont des Bnei Adam. Mais chaque goy, c'est pas l'individu, chaque nation comme telle est une manière d'être homme radicalement hétérogène à une autre. Vous vous rappelez lorsque nous avons étudié à ce propos la règle qui fait que, à tour de rôle, chaque nation a voulu reconstruire l'universel humain et que chaque fois ça capote dans l'impérialisme. Vous vous rappelez de cela? Parce que le véhicule concret de chaque manière d'être homme est trop partiel, précis, particulier pour pouvoir être le véhicule du rêve de l'universel. Vous vous rappelez de cela? Bon, ben c'est très relié à ce que je voudrais vous expliquer ici. Lorsque chacun des goïs s'est particularisé dans son identité propre, alors apparaît corollairement une sorte de médiation entre le nom unique de Dieu et chacun des goïs. La relation de la volonté de Dieu par rapport à la destinée de chacun des goïs passe par un prisme particulier, enfin j'ai mal fait le schéma, mais vous comprenez, par un prisme particulier qui restreint. C'est clair? Et à ce niveau-là, il y a les dieux des nations. La particularisation se fait à travers le paysage du pays considéré. Attendez, j'ai pas vu. Et ça vous fera comprendre des expressions comme le dieu des dieux, Melech Malche Hamelachim, le roi des rois des rois. Les rois, à l'échelle élémentaire, c'est les rois des nations. Ces rois ont un roi. Et ces rois ont un roi. Vous voyez comment le Dieu unique est appelé dans le texte biblique? Melech Malche Hamelachim. C'est clair? Vous approchez un peu de l'idée. Bon. Alors, ces entités, on les appelle les Sarim. Sar, ça veut dire en hébreu un prince. Okay? Prince céleste. Il y a un mot en français qui peut vous aider à comprendre de quoi il s'agit. C'est le mot de génie. Chaque nation a son génie. Et c'est son génie qui est son génie, dans le sens magique. Okay? Vous voyez? Le génie. Les mauvais génies, les bons génies. Eh bien, c'est le génie de chaque nation qui est la médiation entre le Dieu unique. Et vous voyez pourquoi toutes les nations ont un intermédiaire qui est leur génie propre entre le Dieu unique et leur histoire. C'est clair? Pas encore? Non.
Génie intellectuel ou génie magique?
Non. Génie intellectuel ni magique. Et, écoutez, on va faire un peu de gaullisme. Vous voyez comment, lorsque De Gaulle parlait du génie de la France, eh bien, il parle de quelque chose de très concret. Chaque peuple a son génie propre, dans le sens culturel, pas intellectuel, okay, mais culturel total. Okay. Habituez-vous à cela. Nous, les Juifs, nous sommes tellement cosmopolites que nous ne savons pas de quoi parle l'égoïme lorsqu'il parle du génie de leur nation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, essayez de comprendre cela de façon concrète. Chaque nation a sa manière d'être homme et son génie propre qu'elle est seule à avoir. Alors, au niveau théologique, si vous voulez, correspond un visage qui est une idole, un visage du Dieu qui n'a pas de visage. Il y a une sorte de visage projeté sur l'unité de Dieu qui est l'idole qu'ils adorent. Vous pouvez
vous donner un exemple?
Je vais vous donner un verset. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire que devant la face du Dieu unique, il y a d'autres dieux. C'est cela. Regardez le verset. Loi Elecha Elokim Acherim Alpanai. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire qu'il y a des possibilités de médiation, c'est les médiateurs dont parlent les théologies, les païens. Okay. Et alors, là, je veux dire, tout est, il y a une infinité de hiérarchies de médiation. Je vous donne un exemple très simple. Entre la volonté unique du Dieu unique et moi en particulier, sa volonté pour moi, eh bien, il y a toute une série de médiations. Il y a sa volonté pour l'humanité en général.
à l'intérieur de laquelle il y a sa volonté pour mon peuple à moi, à l'intérieur de laquelle il y a sa volonté pour ma lignée familiale dans ce peuple à moi, et à l'intérieur de laquelle il y a sa volonté pour moi individu. Vous voyez ? Et ça se restreint chaque fois. Alors, essayez de bien comprendre. Ça, c'est un sujet qui vient en passant et qui ne fait pas partie de votre programme. D'ailleurs, vous étudierez ça beaucoup plus tard quand vous arrivez à la Kabbalah. Mais ça veut dire que c'est... C'est pas un commandement, c'est une promesse. Et alors là, c'est pour moi qui promets. Si vous êtes juif, alors comprenez bien cela. Toutes ces hiérarchies sont réelles dans ce sens-là, mais pas dans celui-là. Et chaque fois. C'est une image qui se donne. Okay? La volonté de Dieu pour moi, eh bien, se particularise de l'universel absolu jusqu'à mon cas particulier. Okay? Et toutes ces hiérarchies sont réelles. Le cas particulier du judaïsme, c'est que c'est absolument interdit de les considérer comme réelles dans ce sens-là. Dans tous les cas, moi en bas, je suis en relation directement avec lui. Vous comprenez ? Bon. Toutes ces réalités-là, nous ne pouvons pas les connaître si nous sommes dans un temps où il n'y a pas la prophétie. Les prophètes ont parlé de ces hiérarchies. Ce sont des hiérarchies infinies et qui sont réelles dans un sens, mais pas dans l'autre. En particulier, à un certain niveau, il y a ce qu'on appelle les anges. Okay? Vous savez très bien qu'on prend cet exemple. La Bible parle des anges. Nous ne comprenons pas de quoi il s'agit. Et cherchez pas à comprendre, on ne peut pas. À moins qu'on soit initié, tant. Mais on aura beau chercher des dictionnaires et réfléchir qu'est-ce que ça peut être un ange, personne ne comprend. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est interdit de s'adresser aux anges. Vous voyez pourquoi ? Parce que dans ce sens-là, c'est l'idolâtre. Ça ne veut pas dire dans ce sens-là, ça n'existe pas. Mais on n'y comprend rien, parce qu'on n'est pas dans un temps de la prophétie. On ne voit rien. Hein ? Alors que les hommes de la Bible voyaient les anges. Attendez, je voudrais d'abord vérifier si vous avez bien compris. Si vous avez bien compris, vous n'avez rien compris.
Les chrétiens qui
c'est des idolâtres.
C'est ça.
Et ils le savent.
C'est pas une offre pour les chrétiens, c'est ce qu'on peut appeler pour les chrétiens. Ce qu'on peut appeler le Christ comme un intermédiaire.
Et on ne sait pas qu'on peut appeler, c'est comme ça qu'ils le désignent, le médiateur. C'est la figure d'Israël qu'ils ont pris comme médiateur entre Dieu et eux. Qu'est-ce qu'il vous raconte ? Il vous raconte l'histoire d'Israël, sous forme d'un mythe magique.
À moins que je ne sais pas si vous voyez, je crois qu'on a le droit de prier en s'adressant au apôtre.
Jamais de la vie. Jamais de la vie. On ne prie que Dieu seul. Voilà, pas s'adresse, les juifs sont reliés à leur Dieu, et c'est pourquoi la Gemara dit, ils sont comme s'ils étaient idolâtres. Ça y est, c'est clair. Ils sont arrosés à Odazara. Ça veut dire, ils sont au service du génie d'un autre peuple. C'est clair ? Et voilà la gravité.
En Israël, il existe aussi.
Non. C'est le cas particulier, parce que l'identité homme universelle, n'est resté que dans la lignée hébraïque. C'est le récit de la Bible que nous verrons d'étape en étape. Vous suivez ? Non. C'est pourquoi d'ailleurs, une minute, par le biais de notre sujet, c'est pourquoi d'ailleurs, c'est le seul peuple, les Hébreux, qui peut devenir n'importe quelle autre manière d'être homme. Il n'y en a pas d'autre. C'est parce qu'il a en lui la capacité universelle à l'échelle nationale. Alors que les autres nations... C'est une manière d'être homme particularisée. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Bon, mais nous retrouverons ce problème dans d'autres cours pour lui-même. Alors, oui, on a quand même un peu avancé. Okay ? Ça veut dire que c'est pas qu'il est comme s'il n'avait pas de Dieu, c'est plus grave. Il est comme s'il était idolâtre. Voilà la mascana de la gamme. À moins qu'il se sache en exil là-bas. C'est clair ? Il se sache. C'est pas une question de conscience intellectuelle, c'est une question d'existence. Okay. Et vous voyez pourquoi la double appartenance, la double identité, la double loyauté, c'est quelque chose de, je ne peux pas dire impossible, parce que ce n'est pas exactement le cas, mais c'est quelque chose de finalement invivable. Okay. La relation que nous avons avec la nation où nous sommes les Juifs de l'exil est une relation inhumaine, enfin, informulable en réalité humaine. Ça veut dire que nous sommes leurs esclaves, exactement comme les Hébreux en Égypte, tout en sachant que nous sommes, tout en sachant que nous sommes leurs supérieurs. Et c'est invivable une relation pareille. Okay. C'est, ça vous explique à quel point la relation des Juifs et des Goïms est névrotique, des deux côtés. Parce qu'eux aussi le sentent, là. Que nous sommes un cas particulier dans l'humanité. Quelle que soit la manière dont ils se l'expriment. Vous comprenez ? Quand nous parlerons du christianisme, je ne sais pas, c'est toi qui as posé la question, ben nous verrons qu'effectivement, le monde chrétien, c'est un monde goy qui a pris l'identité Israël comme médiateur. Vous comprenez ? Et c'est cette histoire qu'il raconte. Et ils nous l'ont fait vivre, ils nous la font vivre à la manière dont ils le racontent. Okay ? Ils nous ont crucifiés pendant 2000 ans, et subitement, ils ne se rendent pas compte qu'on a ressuscité. Vous avez remarqué ?
Et
là,
moi, je
ne
vois pas
ici de ce quoi. Ah, si, c'est très simple. La seule guérison, c'est s'hébraïser.
Mais par rapport aux
Je vais vous dire. Je vous dis un peu tout à l'heure. À Chaim. Okay. Plus on devient hébreu, et plus on est à l'aise vis-à-vis des cultures des goïms qui sont des grandes cultures. Okay. Mais c'est la culture des Français. C'est la culture des Allemands, c'est la culture des Anglais, ils ont leurs qualités, leurs défauts. Nous sommes privilégiés parce que la culture française, c'est pas rien du tout. Tant qu'on se prend pour un juif déguisé en français, on est gêné dans cette névrose. On est pris dans cette névrose. Okay. À partir du moment où on est un hébreu, qui sait pourquoi il peut être reconnaissant à la France d'être ce qu'elle est et de lui avoir appris sa culture, on est à un tout autre niveau dégagé, décomplexé, décontracté. Quoi. Les goïms dans leur conscience, c'est ce qu'on verra tout à l'heure un peu plus loin dans la Gemara, n'ont pas la même relation aux juifs de l'exil, qui non seulement se prennent pour eux-mêmes, mais se prennent plus qu'eux-mêmes, qu'eux-mêmes. Vous savez, quand les juifs sont patriotes français, il faut le faire, okay, même lorsqu'ils sont anarchistes, c'est à la française qu'ils le sont. Okay. Et puis, il n'y a pas plus cocardier qu'un juif, okay, et n'ont pas la même relation avec ce juif. Qui est chez eux et dans une position ambiguë qu'avec les Hébreux d'Israël. Vous comprenez ? Ils ont des problèmes avec les Hébreux d'Israël à cause de leurs intérêts politiques et économiques, Ken, et aussi à cause de ce que j'appellerais l'antisémitisme humain de l'humanité, qui n'est pas réglé, Ken. C'est un problème qui ne se réglera qu'au temps messianique, d'ailleurs. Mais leur relation avec Israël comme tel n'a rien à voir avec la relation avec les juifs. C'est pourquoi, dans les temps contemporains, où le problème éclate en Europe, les gens sont tellement gênés entre ces conduites à avoir, qu'est-ce que c'est, antisémitisme, anti-israélisme, anti-sionisme, anti-juif, anti... Vous voyez ? Nous savons que nous sommes le même peuple, mais en fait, nous sommes le même peuple à deux indices d'identité très différents entre hébreux et juifs. Est-ce que vous comprenez le problème ? Et comme nous sommes dans une génération de transition, nous passons d'une identité à l'autre, alors on est écrasé par le problème. C'est nous qui sommes la génération de l'enfantement. Okay, enfin, nos devancés immédiats, nos descendants immédiats, mais enfin, c'est dans ce temps-là que nous vivons. Et alors, il y a une pagaille, un désarroi total, et c'est tout à fait compréhensible. Est-ce que c'est clair ? Je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette anecdote. Énormément de Français de bonne foi prennent déjà de bonne foi tous les Juifs pour des Israéliens d'étrangers. Mais de bonne foi, en bonne part. Okay. Enfin, ils ont compris que c'était des Juifs. C'était des Israéliens en voyage. Il n'y a que les Juifs qui ne les comprennent pas. Et alors, ils sont tranquilles. Ils sont... ça y est, on sait qui vous êtes. Vous n'êtes pas des diables. Donc, alors, ils cherchent sur la carte et puis ils s'aperçoivent que c'est un pays où il n'y a même pas la place d'écrire le nom dessus. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors là, L'anecdote que je voulais vous raconter, je vais la raconter. Il n'y a plus de place dans le cendrier. Et ça nous est arrivé un nombre X de fois. Un jour, j'ai fait partie d'une assemblée de bohèmes. Et il y avait à côté de moi un prêtre qui, pour me faire plaisir, m'a dit « Vous savez, nous avons ici une colonie israélienne très sympathique. » C'était une toute petite ville qui s'appelle Nîmes, très, très, très sympathique d'ailleurs, ouais, la ville. Regardez, une colonie israélienne. J'ai tout de suite compris, en même temps, que peut-être il était antisémite, parce qu'il considérait les juifs comme des étrangers, ou que peut-être tout simplement il parlait français et c'est tout. Il voulait dire la communauté israélite. Alors il a dit la colonie israélienne. Mais pour lui, ça va. Oui, c'est pas compliqué. Alors, et puis je peux vous garantir, parce qu'on s'en est expliqué après, c'était pas du tout l'antisémitisme de sa part. C'était de la naïveté de bonne foi. Il parlait français. Et il était fier de dire, mais nous avons ici des Israéliens très sympathiques. Alors si jamais il avait dit au président de la communauté, vous voyez la réaction, quoi ? Anti-juif, moi je suis français. Vive Israël. Mais comment vous faites ça ? C'est tout à fait ça. Bon. Alors, comment c'est pas facile ? Mais vous imaginez le caractère colossal de cette névrose ? Moi, c'est pas facile. Je vais vous dire une chose, ce qui est arrivé... Quoi, tu continues encore à te prendre pour un Français ou quoi ?
Non, je me dis c'est pas facile, je dis
c'est bien ce que j'ai entendu. C'est très facile. C'est très facile. Il suffit d'enlever le masque et de dire la vérité. Et je veux dire ce qui est arrivé. On a fait une confusion entre citoyenneté et nationalité. La France a donné la citoyenneté de l'État à ses Juifs. Les Juifs ont cru qu'ils étaient entrés dans la nation française. On ne rentre pas dans la nation française. À la rigueur. Vous comprenez ? Il n'y a qu'un Français qui fait partie de la nation française. Et sachez que les Français, ça existe, c'est cohérent, et ça existe, mais c'est pas nous. Surtout quand il s'agit de petits Algériens ou Marocains ou Tunisiens. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous savez, dans cette histoire, on a été très naïfs. Et Tunisie, Algérie, Maroc, ça fait TAM. Là, c'était vrai. TAM naïf. Tunisie, Algérie, Maroc. TAM. Vous voyez, à partir du moment où vous arrivez... Une minute. À partir du moment où vous arrivez à ce point de l'analyse, Ken, eh bien, on ne peut plus continuer à argumenter. À partir de ce moment, si un juif continue à se prendre pour un Français, il faut l'enfermer à l'asile. Et d'ailleurs, ça va avec l'aliénation. Et la France est une terre d'asile. Vous voyez jusqu'où ça va. Alors, ils vous disent, oui, je suis chez moi, à l'asile. Bien. Et on va nous donner un exemple. On continue la Gemara. Où on est arrivé que non seulement c'est comme s'il n'avait pas de Dieu, pas le sien, okay, mais c'est pire. Et il est comme s'il était idolâtre. Ça veut dire quoi, idolâtre en hébreu ? Oved Avoda Zara. Au service d'un service étranger. Il n'y a pas de pathétique là-dedans. Okay, c'est pas mon drapeau. Mais c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Et vous voyez qu'on en revient à la nation israélienne. Et c'est la Gemara qui parle. Et vous voyez qu'elle ne vous parle pas de religion, elle vous parle de nation. C'est clair ? Qu'est-ce que c'est être idolâtre ? Faire partie d'une autre nation. Est-ce que c'est clair ? Donc. Bon. Ok.
Sur une question, je ne sais pas si c'est du détail, mais il me semble avoir assisté à un beau cours où vous parliez d'un poème écrit par quelqu'un, je crois que c'était au Moyen-Âge, et vous parlez de mettre Dieu en dessous. Est-ce que...
Je ne trouve pas ça dans, ça dans ma mémoire jusqu'au Moyen-Âge, je vois. Mais de quoi tu parles exactement?
Cette relation qui est impossible, si elle va du bas vers le haut, est-ce qu'elle ne redevient impossible que si...
Ah, c'est pas un poème de Ibn Ezra, Eshtahave Apaï Martha, qui est le matin Mimena. Quand j'ai parlé de ça. Ah, c'était au à Rosh Hashanah. Bien, à Rosh Hashanah. Oui, c'est à Rosh Hashanah. Ou à Kippour. T'as passé à Rosh Hashanah ici?
Oui.
Bon, alors c'est à Rosh Hashanah. Et alors, qu'est-ce que tu veux dire là? Mais rappelle-toi que c'était pas un cours. C'est ça qui m'a bilboulisé.
Non, c'est pas un cours.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Il me semble souvenir que j'ai dit à ce moment-là que on refait, enfin, je sais que c'est pas moi, mais il y avait un... Enfin, on faisait passer ce qui était au-dessus en dessous.
Mais... comment tu relis ça ici?
Ben, le fait qu'on ne puisse pas avoir de relation du bas vers le haut, parce que entre le bas et le haut, il y a...
Non, je crois que pendant qu'on expliquait ça, tu as pensé peut-être à autre chose. Tu veux dire la...
Pour avoir une relation directe avec Dieu...
Non. Lorsque... Quel que soit le niveau de hiérarchie en présence duquel je me trouve... C'est avec Dieu lui-même que je me trouve. Il y a suppression totale de toutes ces hiérarchies dans ce sens-là. C'est ça le judaïsme. Alors que dans toutes les autres religions, sauf l'islam, pas chez les mystiques, mais chez les musulmans orthodoxes, okay, dans toutes les autres religions, on s'adresse aux intermédiaires.
Mais il n'empêche qu'il y a aussi des intermédiaires pour nous attendre au peuple.
Non, mais tout ça, dans ce sens-là, disparaît. Et dans la réalité, je vous ai dit, cette hiérarchie est réelle dans un sens et pas dans l'autre. Et je vous ai dit, avec l'intelligence habituelle que nous avons, on ne peut pas comprendre. Okay. Mais je vous donnais peut-être un exemple qui m'est venu de mes études dans au lycée. C'est en seconde, je crois qu'on fait un peu de physique, quelque chose comme ça, de chimie, oui. Il y a des substances qui permettent une osmose entre deux liquides différents. Ok. Mais il y a certaines substances qui permettent une osmose dans un sens et pas dans l'autre. Vous voyez, c'est une image qui pourra comprendre un peu de quoi il s'agit. Ça passe dans un sens mais pas dans l'autre. Okay, c'est clair. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut penser. Ça veut dire, un juif a conscience d'être devant l'infini de Dieu, créateur des univers entiers, directement. Mais il sait, d'autre part, que la volonté de cet unique infini l'atteint à travers une infinité d'intermédiaires réels dont les prophètes ont parlé mais que nous ne savons pas diagnostiquer sauf si on apprend la Kabbalah. C'est pourquoi c'est pas ici. Okay, bon. Vous savez, toute l'année vous apprendrez une seule chose, la Kabbalah, qu'elle existe, pas plus. C'est tout. N'allez pas raconter que vous avez appris quoi que ce soit. Okay, bon. Quand vous aurez besoin de faire une course en taxi, vous leur demanderez une Kabbalah. Voilà, très bien. C'est les 70 sarim qui correspondent aux 70 nations.
Est-ce que ces 70 sarim sont ce que vous aviez parlé un petit peu au cours de Bereshit au début d'année? C'est enfin, avant la création, le projet divin qui a été transformé, le projet divin. Vous aviez un peu parlé de ça en disant que le projet, c'est pour ça que c'était Kitov. Et que c'était pas exactement ce qu'on voulait, et qu'il y a eu des choses qui ont changé le...
Non, ça n'a rien à voir. Ouh là là, faites pas des courts-circuits comme ça. Hein. Non, les sarim n'ont apparu qu'au moment de Dora Palaga. Avant, il n'y a pas de sarim.
Il n'existait pas avant.
C'est exactement le sujet, mais enfin, ce schéma me pose une question. Lorsqu'on parle de Dieu, on montre toujours le haut. Il y a une raison bien précise.
Ah oui.
Parce qu'on, normalement, on ne devrait pas pouvoir situer.
Oui, non, quand même. Il y a une raison précise. Oui, on ne va pas l'apprendre, mais la réponse est oui. Ok. Elle y en
est. C'est une chose que l'autre en va. Les gars n'ont pas la possibilité d'avoir une relation
relation directe. On ne peut pas leur reprocher d'être idolâtres.
Eh bien, non. On n'a jamais reproché aux idolâtres d'être idolâtres. On leur a reproché la négation de l'unité supérieure. Mais pour les autres peuples d'Israël, d'après la Torah, il leur est permis de s'adresser au Dieu unique à travers leur intermédiaire. Ça s'appelle le Shitou. Non. Ça on étudiera très en détail, tu verras que c'est pas exactement comme ça. Je vais donner un petit exemple pour vous éclairer un peu. On n'a pas l'habitude de prononcer le nom des anges, sinon dans l'étude. Bon, donc je vous parle en étude, je ne prononce rien, okay? Sinon ça les fait apparaître. Non, ne rigolez pas parce que vous voyez pas, mais eux, vous voient. Hein. Et alors là... Soyez sérieux parce que c'est très sérieux. Je vous ai dit déjà, on est veillé sur, surveillé. Okay. Et alors, je crois que je vous ai cité le verset d'ailleurs dans les cours. Et alors, prenons par exemple l'ange Raphaël. Bon, comme c'est un nom qu'on donne aux petits juifs, je peux le prononcer. Alors, l'ange Raphaël, c'est Dieu lui-même s'occupant de la guérison des hommes. Dieu, en tant qu'il s'occupe de la guérison, s'appelle Raphaël. Mais c'est Dieu lui-même dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est Dieu ne s'occupant que de la guérison. Dans ce sens-là, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas d'intermédiaire. J'ai compris ça.
Et
Raphaël, Dieu guérissant.
Pourquoi l'intermédiaire est en bas entre Dieu et les hommes?
Parce que la...
C'est pas une paraphrase.
Parce que tant que je ne me suis pas haussé dans mon identité profonde au niveau du face-à-face, ce face-à-face me détruirait. Et par conséquent, la relation de Dieu à moi se diminue pour que je puisse la supporter. Et au fur et à mesure que j'avance dans l'ascension spirituelle, tous ces degrés se résorbent, s'intègrent en moi. Et j'arrive. C'est Moïse qui est arrivé face à face.
Vous voyez ?
Panim et panim.
Dans le bas d'en haut, c'est une illusion de croire qu'on est face à face.
Alors, pas une illusion du tout. Parce que, en fait, il n'y a de Dieu que Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Et par conséquent, dans ma relation à lui, c'est directement... Regardez, on va prendre ça assez simplement. Non, je comprends très bien, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai mis 40 ans, vous voulez comprendre en 3 minutes. Okay. J'admets en 40 minutes, mais pas en 3. Et là, vous voyez, la vraie question, c'est pourquoi 40? Et là... Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. Là. Attendez, de quoi je parlais juste avant? Je vous ai donné une précision. Quelle était la question juste avant?
Le face à face qui n'est pas. Le vide qui est une illusion. Que de base
en. Mais j'avais, vous voyez, de ces choses-là, il ne faut pas trop parler. Et là. Je veux dire que.
Alors pourquoi on était de face à face de base en.
Ça, c'est pas répondu, c'est dit la réponse.
Non, c'est la question.
Oui. Non, on est arrivé à un point très particulier, puis je veux dire une chose simple.
C'est vraiment un Dieu unique.
Et c'est. Écoutez. Non. Revenez au principe que j'ai dit tout à l'heure. Toutes ces réalités-là ne sont, on n'en tient compte, qu'au temps de la prophétie. La Bible a raconté. Et puis, nous ne comprenons pas de quoi il s'agit. Tout simplement, ce que je vous indique, c'est que il y a une différence de nature entre la relation de Dieu à Israël, qui est sans intermédiaire, et la relation de Dieu au Goïm, qui est à travers ses intermédiaires. Et par conséquent, lorsque un membre d'Israël se trouve sous la souveraineté d'une de ces médiations, quand est-ce qu'il s'y trouve? Lorsqu'il habite dans le pays de tel ou tel peuple considéré, Alors la Gemara dit, il est Keilu Ove Avodaza. Vous y êtes ? Bon. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que lorsque vous avez affaire à un Israélien, ou même à un sioniste, en train de devenir Israélien, qui est venu en Israël parce qu'il considère que c'est ça être vraiment juif. Et même s'il a été élevé, s'il se pense et s'il évolue en dehors de toute Torah, de toute religion, de toute pratique, de toute mitzvot, le seul fait qu'il ne puisse pas considérer son identité de juif, qu'il ne puisse considérer qu'en Eretz Israël, ça l'authentifie comme un authentique croyant de la Bible, même s'il n'en est pas conscient. Alors que un juif, même pratiquant, s'il considère qu'il fait partie d'une autre nation, mais que sa religion, c'est la religion juive, est déjà, dans le cas de la Gemara, qui fait partie d'une idolâtrie. Qu'il est un juif qui met son génie au service d'une idolâtrie. Et que, en tout cas, de notre temps, il est bien clair qu'il faut décrypter cet enseignement au niveau du vocabulaire nation, et pas du tout au niveau du vocabulaire confession religieuse. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Alors, vous voyez pourquoi notre dialogue avec les juifs de la Gola est doublement difficile. Lorsqu'on parle aux religieux, ils ne comprennent pas qu'on leur parle de nation. Et lorsqu'on parle aux nationalistes, ils ne comprennent pas qu'on leur parle de Torah. Vous voyez pourquoi c'est tellement compliqué. Est-ce que c'est clair ce que je dis là ? Jusqu'au moment où vous aurez étudié suffisamment pour vous rendre compte que Dieu est un. Et que celui qui est la providence de la nation d'Israël, c'est lui qui a donné la Torah et qu'il n'y en a pas d'autre. Et que la Torah ne concerne que ceux qui font partie de la nation d'Israël. Dans les versets qu'on a lus, avec trois étapes, sortie d'Égypte, pays de Canaan, alors seulement, Kimit Zion, etc. Bon, vous voyez à quel point on ne peut pas avoir de langage commun avec les rabbins de l'étranger. Alors qu'apparemment, on parlerait des mêmes choses. Apparemment. Vous voyez à quel point c'est grave. Bon. Oui, il s'est battu avec le génie de la nation d'Ésaü. Et c'est pourquoi il se bat avec une force divine. Et c'est ce que Dieu... Oui. Et vous voyez, la difficulté existentielle du monothéisme juif. Nous savons qu'il y a un Dieu unique. Et par conséquent, ce Dieu unique est derrière nos adversaires, de la même manière que par rapport à nos adversaires, il est derrière nous. Par conséquent, lorsque nous avons à lutter contre nos adversaires, nous avons en face de nous la volonté de Dieu pour eux. C'est la lutte de Jacob avec ce sort. Et c'est pourquoi, lorsque le Dieu unique confirme à Jacob qu'il a été vainqueur, il lui dit, parce que tu as pu lutter avec les hommes et avec les dieux, et tu as vaincu. C'est-à-dire, si j'ose dire, Ken, Dieu souhaitait être vaincu par Jacob en tant que sar d'Ésaü. Et son souhait était accompli. Jacob a été victorieux. C'est-à-dire, comprenez une chose, il faut se dégager d'un monothéisme tribal qui s'appellerait une monolatrie. Ça veut dire que le Dieu dont je parle ne s'occupe que des Juifs. Non, c'est le Dieu de l'universel humain. Et par conséquent, lorsque je suis en conflit, moi, Israël, avec une autre nation, derrière cette nation, il y a la volonté de Dieu pour elle. Et c'est pourquoi c'est si difficile.
Pourquoi pour elle et pas pour
nous ? Non, lorsque je suis en conflit avec... Heureusement, que, et c'est ce que Moïse a obtenu, il n'y a qu'Israël qui est éclairé par la prophétie. Parce que si les autres nations étaient éclairées par la prophétie dans leur conflit contre nous, exactement. C'est pourquoi Moïse a dit, d'accord, pour l'histoire d'Israël, mais à une condition, arrête la prophétie chez les autres, parce que sinon on s'en sortira pas. Regardez, tous les arguments de mauvaise foi qu'ils ont contre nous, et ça marche. Et ici, ils avaient les vrais arguments. Vous voyez ? Or, ils existent. Nous les connaissons, ils ne les connaissent pas. Okay. Bon, heureusement. Okay. Mais il s'en passe, et il s'arrange bien sans ça. Vous avez compris la difficulté. Bon, je crois qu'on a avancé un peu dans cette analyse. Et vous voyez, lorsque... Je sais pas, quand je vous ai parlé tout à l'heure des araignées, c'était pas une façon de parler. Okay. Toutes les créatures qu'il y a dans l'univers sont des créatures du Dieu unique. Okay. même les Allemands, même les Arabes, même et aussi les Araignées. À des niveaux différents, bien sûr. Bon. Alors, attendez, on va avancer un peu. Écoutez, imaginez qu'il faut réaliser concrètement ces réalités-là, et pas les penser de façon abstraite. Okay. Je comprends très bien que vous abordez des problèmes un peu vertigineux pour les commencements, et ça vous met un peu en état de, je sais pas, de nerfs ou je sais pas quoi, mais ce sont des choses infiniment sérieuses. Et ce sont ces choses-là auxquelles vous pensiez sans y penser, quand vous y pensiez sans y penser. C'est bien ça. Donc, je vous donne un exemple. On parle... C'est rare. On parle du nazisme. Okay. Je ne dis pas allemand. Allemand, c'était la nation. Enfin, elle est devenue nazie. On parle du nazisme. Mais un juif ne peut pas oublier que les nazis font partie de la création que le Dieu...